Je suis en compagnie de Marc Alizard. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons de crypto-communisme qui est sorti aux éditions du PUF il y a quelque temps maintenant. Dedans, il y a deux axiomes pour commencer dans votre livre, Marc Alizard. Le premier, que les communistes n'ont jamais beaucoup aimé l'informatique et qui se déduirait du deuxième axiome, qui peut-être est le premier. Je vous cite, « L'ignorance dans laquelle Marx est resté de la notion balbutiante d'information pèse sur l'interprétation des dysfonctionnements du capitalisme qu'il fait et surtout sur la résolution qu'il en propose. »
Oui, effectivement, c'est le point de départ du livre, était de confronter le marxisme à la question de l'informatique, qui est évidemment une question centrale de notre temps, de savoir s'il était capable de l'appréhender, ou si le fait d'avoir manqué, pour différentes raisons, son apparition et sa signification, le rendait inapte finalement à être une pensée politique pour notre temps. Hein, voilà.
Alors, il y a cette notion là d'information, et c'est peut-être ce qui va caractériser votre pensée dans crypto-communiste, parce que à cette époque-là, il y avait déjà, et vous en tant qu'historien de l'informatique, il y avait déjà un début de pensée informatique qui existait à l'époque de Marx, et qu'il n'y ait pas dans le marxisme cette pensée du concept d'information fait qu'il va y avoir sans doute ce défaut-là d'une pensée informatique et peut-être aussi d'une pensée du réseau Internet. Naïvement, j'avais toujours pensé que Internet pourrait être une idée communiste. Or, elle ne l'a pas été.
Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué pour Internet, mais oui, bon, le Marx, c'est un esprit encyclopédique, c'est un humaniste de la Renaissance presque. Il s'intéresse à tout, et parmi les choses auxquelles il s'intéresse, il y a une science naissante qui est la science des machines à vapeur. Il est contemporain de Sadi Carnot, de Joule, de Watt, qui sont en train de découvrir que l'énergie est une notion fondamentale pour comprendre le monde. On oublie, on ignore peut-être que l'énergie est un concept récent de notre histoire intellectuelle, un concept qui apparaît donc à la toute fin du XVIIIe siècle et qui va prendre son essor au XIXe siècle et influencer grandement Marx, pas seulement Marx, hein, mais on peine à comprendre même des thèses fondamentales de Freud sans les rapporter à une conception énergétiste du monde. C'est vrai aussi de Darwin, enfin c'est vrai de Nietzsche, les deux grands principes de la thermodynamique qui vont être mis au jour, hein, la conservation de l'énergie et la dissipation de sa capacité à libérer du travail, à générer du travail, qui va s'appeler l'entropie, vont absolument fasciner les intellectuels de ce temps, Marx et Engels, peut-être plus encore Engels d'ailleurs, y compris. Engels vit à Manchester, il ne faut pas l'oublier, c'est le fils d'industriel, il a une usine et il est le voisin de palier de Joule. Alors il suit tout ça avec beaucoup d'intérêt, et dans Dialectique de la nature, son grand livre avec lequel il échange beaucoup avec Marx, il est beaucoup question de thermodynamique. Pourquoi je fais cette incise? Parce que la thermodynamique, c'est aussi la science qui va découvrir le concept d'information, justement. Donc le point de départ de crypto-communisme, à l'intérieur de cette réflexion que vous avez située, qui est de savoir est-ce que le marxisme peut avoir quelque chose à dire sur la société de l'information qui manifestement a transformé les rapports de travail, le capital, la financiarisation de l'économie, la dématérialisation des rapports de force, et donc peut faire penser que le marxisme n'est plus capable de penser ce moment. Et mon hypothèse, c'est que du fait que Marx était contemporain de la thermodynamique, donc de la pensée, de la double pensée de l'énergie et de l'information, il avait en fait une prise privilégiée sur cette question. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où effectivement, donc dans la Terre unique, va découvrir le concept d'information, mais va le découvrir relativement tardivement, trop tardivement probablement pour que Marx puisse s'en emparer vraiment réellement. Et puis, même d'une certaine manière, la prégnance du concept d'énergie va rendre le marxisme très, très, va le faire pencher très fortement vers un anti-informationnalisme, si j'ose dire, dans les années postérieures. C'est-à-dire que la thèse fondamentale du marxisme, c'est que toute valeur est indexée sur la quantité de travail accumulée, hein, à l'intérieur de la marchandise, hein. Que c'est ça qui démystifie la valeur de la marchandise, le fétichisme de la marchandise. Derrière toute marchandise, il y a du travail. Et le travail, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est vraiment un modèle thermodynamique de la création de valeur. Et ça, c'est vraiment très important pour Marx. Du coup, chez les marxistes postérieurs, il y aura une tendance à laisser un peu tomber, à négliger tout ce qui est immatériel, tout ce qui n'est pas énergétique, tout ce qui n'est pas lié au travail, justement, au travail accumulé. Mais je crois que de par la proximité de Marx avec le concept, avec les concepts fondamentaux de la thermodynamique, il y a quand même matière à faire un rapprochement plus profond, au fond, entre Marx et le concept d'information.
Parce que ce concept de thermodynamique va irriguer complètement votre livre. Vous l'utilisez énormément et vous établissez cette différence entre l'énergie et l'information. Vous écrivez que l'information ne s'épuise pas en passant de main en main, qu'elle est partagée en autant d'exemplaires qu'il y a de personnes pour la recevoir. Et que cette différence entre l'énergie et l'information, l'énergie, il y a toujours une part d'entropie. Vous reliez ça à la part maudite de Georges Bataille, tout à fait à escient. Mais l'information, elle, n'a pas d'entropie. Et ça peut être le nœud de votre réflexion sur votre livre Crypto-communisme, qui va nous parler des bitcoins. C'est que justement, l'information, cette différence avec l'énergie, et ça pourrait être les lois de la thermodynamique qui nous l'apprennent.
Oui, c'est ça. L'énergie a tendance à libère du travail, hein, donc, mais elle a tendance à se dissiper, à se désagréger. Et la seule manière de faire en sorte que elle continue de fournir du travail, c'est d'injecter de l'information dans l'énergie qu'on a à notre disposition. On dit parfois que que l'information est négentropique, hein. L'entropie, ça désigne cette dissipation, et l'information, le contraire. Si vous laissez un puzzle dans un grenier, il va se disperser, les pièces vont se séparer. Ça, c'est la force de l'entropie. Il y a plus de chances que vous trouviez un puzzle défait que par magie, un puzzle qui soit refait au cours du temps où vous ne l'avez pas touché, hein, entre les souris et l'humidité et les mouvements des uns et des autres, c'est plutôt ce qui se passe. Et faire un puzzle, au contraire, c'est injecter de l'information et pour lui donner sa forme, hein. Et c'est à ça que ça sert, l'information dans la nature. C'est à donner forme à l'énergie qui autrement est une sorte de flux inorganisé, puissant, mais comme un fleuve, quoi, qui se jette dans la mer, d'une sorte de comment on peut appeler ça, de mort, on appelle ça de mort thermique, de dissipation totale. Voilà. Donc, alors vous avez dit l'information se partage, l'énergie se donne. Oui, c'est la grande différence entre les deux. Et c'est un des points d'entrée d'ailleurs pour une pensée communiste de l'information, hein, c'est que au fond l'énergie se donne et qu'on la perd, qu'on peut l'accumuler, qu'on qu'on peut la mettre sous clé comme un trésor. L'information, au contraire, est gratuite. Quand on la partage, elle se multiplie. Donc, d'une certaine manière, elle est communiste de manière presque structurelle, quoi. C'est inhérent à son fonctionnement. Plus une société est informée, plus elle partage de choses gratuitement. Cette rencontre entre Marx et l'information, elle peut se faire au moins sur cette base-là. Je rappelle d'ailleurs dans le livre les travaux de Yann Moulier-Boutan, qui, dans le capitalisme cognitif, rappelle que Marx, le jeune Marx, a eu l'idée que nous allions vers une société de l'information. Vers une sorte de cerveau global qui allait permettre de rompre le cercle vicieux de l'accumulation capitalistique. Ça, c'est mon chien qui vient d'aboyer et qui est peut-être pas d'accord, mais c'est bien ce que Marx écrit.
Et là, vous en arrivez, Marc Alizart, à l'informatique. Vous écrivez que l'informatique pourrait traiter de l'information, mais elle n'en contient aucune. Et vous allez même un peu plus loin, et ça pourrait être une de vos thèses qui pourrait paraître surprenante, mais que vous défendez. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, écrivez-vous, il se pourrait que le problème de notre société de l'information soit justement un manque d'information.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai repris aussi à Yann Moulier-Boutan, qui cite des économistes qui ont fait la remarque que la révolution informatique n'a pas créé des gains de productivité aussi importants que la révolution de l'électricité, la révolution de la machine à vapeur, ou même la révolution de l'automobile. Toutes ces révolutions-là ont entraîné des gains de productivité colossaux, et donc nous ont fait bondir notre production, notre consommation, transformer nos sociétés très très profondément. On se serait attendu à ce que la révolution de l'Internet, du micro-ordinateur, etc., est une conséquence, des conséquences égales, sinon plus grandes encore. Que n'a-t-on pas lu sur la troisième révolution industrielle, la révolution informatique, qui allait changer le monde, etc. En fait, quand on regarde les chiffres, en tout cas, le produit intérieur brut n'a pas bondi, la productivité non plus, au point donc que des économistes se disent « mais est-ce que cette société de l'information ne serait pas étonnamment pauvre en information, c'est-à-dire en égantropie, hein, si on reprend ce qu'on avait dit, c'est-à-dire, est-ce que cette société de l'information arrive vraiment à produire des effets d'ordre qui permettent de maîtriser les flux énergétiques et de les rendre plus productifs? Et la réponse, pour le moment, effectivement, donc paradoxalement, est non. Alors, c'est un autre des points de départ de ce livre, de se demander à quelles conditions la société de l'information pourrait être réellement une société transformatrice, voire évidemment une société révolutionnaire.
Et là, vous allez nous raconter une histoire, celle du Bitcoin. Cette histoire, elle commence par Satoshi Nakamoto. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce mystérieux personnage qui n'est peut-être pas qu'un seul en plus, qui est peut-être une communauté, on ne sait pas très bien, mais c'est sous ce nom-là en tout cas que est connu le créateur du Bitcoin.
On ne sait presque rien de Satoshi Nakamoto, si ce n'est que c'est pas son vrai nom. On pense que c'est peut-être deux personnes qui échangeaient des emails, ou une personne et un compagnon, ou effectivement peut-être simplement un collectif. On sait en tout cas que l'anonymat revendiqué du personnage et s'inscrit complètement dans sa logique philosophique, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un ou un groupe de personnes qui gravitent autour de ce qu'on appelle le crypto-anarchisme, qui sont des gens qui croient que, on va dire des enfants des cyberpunks, hein, qui pensent que dissimuler son identité est une arme de guerre contre la surveillance globale que Internet et l'informatique a mis en place. Et comme le projet de Satoshi Nakamoto, c'est d'inventer une monnaie décentralisée, insaisissable par les gouvernements, les États, donc par la société de contrôle, naturellement, son invisibilité fait partie intégrante de sa création. Et elle est d'autant plus remarquable, cette invisibilité, que Satoshi Nakamoto, possédant le premier million de Bitcoin qui a été fabriqué, est probablement un des hommes les plus riches de la planète, mais n'a jamais touché un centime de ses bitcoins. Ça, c'est je trouve une des histoires les plus romanesques de notre moment contemporain, de penser que l'homme le plus riche du monde vit comme un asset dans une frugalité totale, sans toucher un centime de sa richesse, qui est totalement gelée. Parfois suspendu d'ailleurs comme une épée de Damoclès au-dessus de Bitcoin, parce qu'on se dit, mais enfin, si Satoshi Nakamoto vend 1 million de Bitcoin du jour au lendemain, en gros, ça vaut plus grand-chose, mais qui est fascinante, quoi, qui fait partie de la légende de Bitcoin et qui contribue parfois même à en faire une religion un peu ridicule, parce que les gens se tournent vers Satoshi Nakamoto comme s'ils se tournaient vers une sorte de prophète qui avait laissé une parole révélée qui leur reviendrait d'interpréter, et de facto, c'est exactement ce qui se passe, puisque Satoshi Nakamoto est l'auteur d'un white paper, une note blanche, qui est un document qu'il a posté sur un forum internet en 2008, qui décrit le protocole qu'il a inventé pour créer cette monnaie, cette nouvelle monnaie, donc qui s'appelle le Bitcoin.
Alors, à partir de là, je me suis posé beaucoup de questions sur la manière dont vous avez procédé. J'imagine que vous aviez entendu parler du Bitcoin, que vous avez commencé des recherches dessus et que vous êtes posé la question, toute bête, que s'est-il passé au juste ? Voilà, que s'est-il passé au juste ? Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin ? Et essayer d'en faire la généalogie et de mêler cela à votre recherche sur l'informatique. Vous aviez écrit précédemment Informatique Céleste, donc vous étiez déjà dans cette histoire-là, dans cette généalogie-là. Soudain, vous tombez sur le Bitcoin, et là, vous êtes obligé d'en créer, enfin, d'en chercher en tout cas la généalogie, et c'est toute la première partie de votre livre crypto-communiste, Marc Alizart, qui est de « Je fais la généalogie en passant par le marxisme, en passant par différentes disciplines, l'économie par exemple, pour essayer de comprendre c'est quoi cette création de monnaie, est-ce que c'est une création de monnaie, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Et pour revenir à la question précédente, Bitcoin, c'est de l'information qui emporte de la valeur. Donc quand on donne un Bitcoin, on l'a perdu. Donc c'est pour la première fois un document informatique non reproductible, non partageable. C'est une manière de donner une efficacité énergétique à de l'information. Alors là, on est devant quelque chose de complètement fascinant. Voilà, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est beaucoup plus qu'une monnaie, qu'un instrument spéculatif, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut plaquer comme fantasme sur Bitcoin. D'abord, moi, ce qui me saisit dans cette affaire, c'est le saut ontologique que Bitcoin propose, le pont, on va dire, qu'il dresse entre ces deux concepts antagonistes d'énergie et d'information qui sont au cœur donc, d'une des inventions, des découvertes scientifiques les plus importantes de tous les temps, qui est donc la thermodynamique. Il y avait deux principes, l'énergie et l'information, et tout d'un coup, avec Bitcoin, il y en a un. Il y en a un, et une sorte d'échange entre énergie et information. Alors, c'est pas la première fois qu'on suggère qu'il y a un échange possible entre énergie et information. C'est Ralph Landauer et Charles Bennett dans les années 80, qui sont des ingénieurs d'IBM, qui ont montré, qui ont prouvé que de la même manière qu'on peut écrire E égale MC2, c'est-à-dire qu'il y a une conversion possible entre la masse et l'énergie, on peut écrire une équation du même type entre l'information et l'énergie, c'est-à-dire que l'information est une chose physique, hein, pas un concept subjectif. Et Satoshi Nakamoto, c'est une étape supplémentaire dans cette découverte des échanges entre information et énergie. Et effectivement, j'avais écrit Informatique Céleste, et la question de l'information me passionne, et avec Satoshi Nakamoto, on découvre une nouvelle dimension possible de cette aventure intellectuelle qui est l'aventure de l'information et de l'informatique depuis Charles Babbage, en passant par Turing. Turing, voilà, et tous les grands inventeurs, les grands théoriciens de l'information au XXe siècle. Alors, il y a ça, et puis il y a probablement une autre chose qui m'attire l'attention, et qui a trait à un livre plus ancien que j'avais écrit, qui s'appelle Pop Théologie, qui est sur le protestantisme, sur l'influence de la réforme sur la culture moderne, contemporaine. C'est que je trouve que les bitcoiners ressemblent beaucoup à des protestants. Que le white paper de Satoshi Nakamoto promet de s'émanciper des banquiers comme Luther avait proposé de s'émanciper des prêtres. Et qu'il y a une promesse de liberté, une promesse une forme de destruction aussi des autorités en place, d'un monde qu'on considère corrompu, d'une oligarchie qui a privatisé, alors peut-être pas le salut, mais en l'occurrence, mais qui a privatisé l'argent. Et que c'est un discours. Alors. Aux États-Unis, qui passent pour libertariens, hein, les gens qui s'intéressent à ça sont plutôt de droite, ont l'impression que c'est une sorte d'anarchisme qui va favoriser les plus forts, ceux qui vont se libérer du contrôle étatique et récupérer leurs billes et vivre dans les marges de la société. Moi, je pense pas du tout, je pense que c'est une réforme au sens plein du terme, c'est-à-dire quelque chose de très rigoureux au contraire, de très ascétique, encore une fois, et qui est porteur d'une révolution qui est une révolution plus spirituel, et que j'ai envie là encore de raccorder à Marx, parce que au fond on peut pas être marxiste et ne pas vouloir non plus la mort des banquiers. S'il y a quelque chose qui pourrait rattacher Marx et Satoshi Nakamoto, c'est bien ça. Du reste, dans l'histoire intellectuelle du communisme, le cousinage avec l'anarchisme, hein, de Bakounine, de Proudhon, avant la rupture, notamment après la Commune, très fort. Donc la destruction de l'État est vraiment centrale dans le marxisme. La destruction de l'État, la destruction des banques. Et je trouve que Bitcoin, à ce titre, s'inscrit dans une histoire qui est autant une histoire de gauche, voire même bien davantage une histoire de gauche qu'une histoire libertarienne. Alors j'ai voulu témoigner de ces deux centres d'intérêt. Il m'a semblé que Bitcoin faisait converger ces deux centres d'intérêt qui avaient été les miens, l'histoire de la réforme d'un côté, l'histoire de l'informatique de l'autre, avec d'ailleurs un Marx entre les deux, donc à la naissance de l'informatique, et en droite ligne de Luther, puisqu'on a le texte de Marx où il se propose au fond d'être le deuxième réformateur, hein, d'accomplir ce que la réforme n'a pas fait, d'exproprier les princes complètement. Et mon hypothèse de travail aura été donc que Bitcoin est l'outil qui aurait permis à Marx de mener à bien son entreprise.
Alors, abordons cette question des bitcoins. Vous écrivez, un bitcoin est un rapport social. Il n'est même que cela. Il faut que je donne peut-être, avant que vous répondiez, mes impressions de lecteur peut-être. J'ai bien entendu, comme un peu tout le monde, entendu parler de bitcoin et j'en ai forcément très très mal entendu parler. Ce qui fait que votre livre, Marc Alizart, m'a énormément surpris. Et surtout, le traitement, c'est-à-dire que de le faire passer par une pensée marxiste, de essayer de nous généalogiser par fin 19e, 20e siècle, et puis d'utiliser cette théorie de la thermodynamique, tout cela est très très déroutant et en même temps incroyablement logique. Ce qui fait que ce que vous écrivez sur le Bitcoin, j'ai eu l'impression soudain d'avoir affaire à autre chose que ce que j'avais imaginé jusque-là. Et ça explique votre, par exemple, cette phrase, un bitcoin est un rapport social, il n'est même que cela, c'est-à-dire que dans votre vocabulaire, bien entendu, vous allez aussi marxiser, serait un mauvais terme, mais je pense qu'il y a de cet élan-là. Alors expliquez-nous ce que ça peut être un bitcoin qui est un rapport social et qui ne serait même que cela.
Il faut parler un petit peu de comment fonctionne Bitcoin. Hein. L'infrastructure qui soutient Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un ensemble de personnes, hein, donc bien un rapport social qui c'est un mot de Marx, hein, le rapport social, vous l'avez bien relevé, qui permet de faire fonctionner cette grosse machine. En gros, vous avez chaque transaction, l'existence des bitcoins est validée, garantie par cette chaîne de gens qui se tiennent la main en quelque sorte, hein, et qui assurent à la totalité des utilisateurs, à chaque utilisateur. Au fond, c'est la collectivité qui assure à chaque utilisateur que ces opérations sont bien valides. J'ai voulu le préciser parce que dans la manière dont on perçoit Bitcoin souvent, on se dit bah, c'est un protocole, c'est un algorithme qui permet de s'affranchir de toute société justement, hein, puisqu'il se passe des banquiers, il se passe peut-être de la société tout entière. D'ailleurs, on trouve une sorte de millénarisme bitcoinien chez les libertariens, encore une fois, où Bitcoin est censé nous affranchir l'individu de toute oppression. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Bitcoin, c'est accepter d'entrer dans une collectivité extrêmement coercitive d'une certaine manière qui valide la véracité des choses que vous faites. Il y a Nick Szabo à qui on a demandé, qu'un des probablement un des possiblement un des un, une des personnes derrière Satoshi Nakamoto, donc quelqu'un d'important, à qui on a demandé comment vous résumeriez Bitcoin en un mot. Il a dit, c'est tout le monde surveille tout le monde. Et c'est glaçant, quoi. C'est-à-dire qu'on est assez loin du rêve libertarien, mais c'est comme ça, effectivement, que ça fonctionne. Et dans ce sens, je me suis amusé à dire que c'était la version réussie du centralisme démocratique. Dans le centralisme démocratique traditionnel, il y a beaucoup de centralisme, peu de démocratie. Parfois, dans la démocratie, il y a beaucoup de démocratie et peu de centralisme. Et au fond, aucun des systèmes n'est viable. Bitcoin, c'est un équilibre assez subtil et réussi entre le centralisme et la démocratie. C'est une manière d'implémenter du consensus décentralisé, hein, c'est le mot important. C'est un protocole qui permet de produire du consensus décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je produis du consensus, c'est-à-dire je produis de la vérité en quelque sorte, hein, et donc de la confiance, mais sans le besoin d'en référer à un tiers, un deus ex machina extérieur au système. Quand vous votez, vous avez toujours un assesseur qui va compter vos votes, et alors lui c'est le tiers. C'est le tiers de confiance, c'est l'autorité qui valide. Et évidemment, si le tiers est corrompu, le vote ne vaut rien. Quand vous utilisez vos cartes de crédit, c'est pareil, hein. Des banques se rapprochent, la banque émettrice et la banque réceptrice, elles se rapprochent, et puis il y a un tiers, le banquier qui est à la jonction de ces deux banques, qui dit oui, les livres de compte sont bons, j'efface cette transaction, je la mets là, etc. Si le banquier est corrompu, de nouveau, vous êtes ennuyé. Alors, la logique de Bitcoin, c'est de dire, la question que se pose Satoshi Nakamoto, c'est est-ce qu'il est possible de produire du consensus sans l'intervention de tiers validants? Et sa réponse est oui, c'est ça Bitcoin, c'est ce protocole-là qui permet de produire du consensus de manière décentralisée. Alors consensus décentralisé, souvent donc c'est décentralisé qui l'emporte, moi je pense que consensus est tout aussi important, et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le mot centralisme démocratique est assez drôle, parce qu'en chiasme vous avez bien un décentralisé qui répète démocratie, et puis centralisme qui répète consensus. Donc là encore on a un point commun, un point de référence qui permet d'imaginer un Bitcoin marxiste.
Alors, le Bitcoin fonctionne, comme vous l'avez expliqué, et comme on l'apprend dans votre livre, par la blockchain. Cette blockchain, elle a trois caractéristiques, trois utilités. Elle peut abriter des preuves d'existence, elle peut abriter des preuves de propriété, et également des preuves d'exécution. Et par cette sorte de triptyque, elle tient son pouvoir, quoi. Elle tient sa forme de blockchain. Et ça aussi, c'est inédit. C'est foncièrement inédit d'avoir ces trois caractéristiques réunies ensemble.
Oui, alors, peut-être je vais juste faire une aparté pour dire que tout ceci est sous réserve que ça marche. C'est-à-dire que techniquement, ça c'est les promesses. on va dire, de Bitcoin et en particulier des coins qui se sont inspirés de son protocole pour développer de nouvelles applications. Hein, Bitcoin, au départ, c'est juste de l'argent. Enfin, c'est pas de l'argent, mais comme j'ai dit, c'est un document informatique non reproductible. Donc c'est pour ça que ça vaut quelque chose. C'est une information rare. C'est tout. On peut faire d'autres choses avec Bitcoin, mais c'est des couches supplémentaires. Et tout ça est sous réserve de qu'on puisse le faire avec beaucoup de gens. Pour le moment, c'est pas le cas encore, hein, et rapidement, c'est pas le cas non plus. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est important de préciser que tout ça est de l'ordre de l'expérimental, et en particulier les choses que vous avez décrites, elles appartiennent plutôt à un réseau qui s'appelle Ethereum, qui a été inventé par un génie de 20 ans qui s'appelle Vitalik Buterin, et qui se propose d'être un Bitcoin amélioré et qui emporterait des fonctions supplémentaires, donc effectivement, preuve d'existence, remplacer vos cartes d'identité, qui sont aujourd'hui émises par un tiers, qui valident votre existence, ou pas, qui peut éventuellement vous rendre apatride, si le cœur lui en dit, nier, écraser, enfin rayer votre existence d'un trait de plume, comme ça s'est fait sous le stalinisme. Vous avez des preuves de propriété, alors c'est une possibilité, c'est-à-dire que votre maison, votre voiture, au lieu d'être dans un registre chez un notaire, encore un tiers de confiance, soit sur une blockchain. Et puis vous avez des preuves d'exécution, alors qui ce qu'on appelle aussi parfois des smart contracts, qui sont une manière de faire en sorte que quand vous rentrez dans votre location de vacances, vous êtes débité au moment où la clé a tourné dans la serrure. Ça vous évite aussi les mauvaises surprises d'avoir payé avant et de retrouver qu'il n'y a pas de maison à l'endroit où il était promis un séjour de rêve. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'une blockchain se propose de résoudre. Il n'est pas du tout certain qu'elle le puisse. À la fois pour des raisons techniques, pour d'autres raisons aussi, hein, puisque qu'est-ce que vous faites si la maison n'est pas là, enfin, ou comment dire, si quelqu'un prend votre voiture, il vous faut quand même une police pour aller chercher le voleur. Hein, c'est pas la blockchain qui va vous rendre votre voiture, même si votre voiture est enregistrée sur la blockchain. Donc voilà, ça reste hypothétique, mais c'est assez fascinant d'imaginer que cette blockchain se propose, au-delà de l'argent, d'être une automatisation de toute une série d'actes quotidiens qu'on pratique, alors, en démocratie et dans des périodes normales de l'histoire, au fond, que personne ne remet en cause. Hein, il n'y a aucun problème à ce que toutes ces choses-là soient assurées par des tiers de confiance. Ça a été d'abord un progrès, d'ailleurs. Hein, mais dans des situations plus conflictuelles, dans des pays plus fragiles, dans des pays plus autoritaires, et dans une société qui va vers... une métastase du contrôle aidée notamment par l'informatique, eh bien Bitcoin et ses variantes se proposent de protéger les droits de l'individu. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette frénésie, hein, ce magnétisme que provoquent ces inventions chez les gens qui les aiment et qui les pratiquent. C'est parce qu'ils y voient une planche de salut si les choses venaient à se gâter. Alors on a des chiffres, hein, au Venezuela, les gens se servent de Bitcoin pour échapper à l'hyperinflation, en Chine pour échapper au contrôle d'échange, en Afrique, c'est pas encore des choses massives, mais c'est des usages qui sont réels, hein, qui correspondent vraiment à la raison pour laquelle ils ont été inventés. Voilà, Dieu nous préserve que ça nous arrive aussi de devoir nous en servir, mais il y a plein d'autres raisons que les dangers de la société de contrôle qui pourraient nous y amener. Je cite un peu brièvement la question de la manipulation des taux d'intérêt, par exemple, par les banques centrales, qui est un sujet pour le coup proprement marxiste. La manière dont l'argent a échappé au pouvoir souverain des peuples en étant relégués dans des institutions non élues qu'on appelle des banques centrales, qui de cheville en cheville avec les banquiers d'affaires font la politique à la corbeille, comme disait De Gaulle, et permettent à une hyperinflation de se porter sur les biens immobiliers, sur les actions, grâce à de l'argent pas cher distribué au terme de quantitative easing, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est démocratique? Est-ce que ça ne provoque pas des poussées populistes légitimes? Moi, je le pense, et je pense que, et je ne suis pas le seul, que Bitcoin est aussi une réponse à cette dégradation terrible de la chose publique. Bitcoin, c'est vraiment une chose publique. Comme je l'ai dit au début, hein, c'est un consensus décentralisé, c'est un consensus qui appartient au peuple, qui est produit par le peuple, c'est ce que j'appelle une banque vraiment populaire. Et en ce sens, ben, c'est quelque chose dont on a vraiment beaucoup besoin, je crois, aujourd'hui.
D'ailleurs, vous établissez les mérites. Là, c'était sur la blockchain, mais ça revient au même, quoi. C'est la blockchain qui fait fonctionner le Bitcoin, si j'ai à peu près compris. Vous écrivez qu'elle allie l'ouverture de la démocratie avec l'efficience des marchés basés sur le mérite, et vous concluez qu'elle fait de chacun de ses membres une sorte de fonctionnaire.
Oui, j'aime bien qu'on devienne tous fonctionnaires. J'emprunte cette expression à Ravalna Vikant, qui est un des théoriciens les plus anciens des crypto-monnaies, qui classe les organisations sociales en plusieurs catégories et en fonction de l'extension et de la compréhension. Il dit au fond, il y a plusieurs manières de s'organiser. Il y a des organisations très très élitistes, alors qui sont très très efficaces parce que les membres se connaissent et ont confiance en eux parfaitement, mais elles sont relativement réduites parce que leur extension est très faible. Donc c'est souvent des communautés fermées, des clubs, des universités d'élite, etc. À l'autre bout, il y a des sociétés extrêmement ouvertes, très inclusives, les démocraties, mais qui sont peu efficaces parce que la confiance manque, parce qu'elles sont justement très, très inclusives. Donc c'est l'opposé. Au milieu, il y a les marchés qui allient un peu le meilleur des deux mondes. Hein. Les gens qui veulent y entrer peuvent y entrer. Et en même temps, c'est quand même un petit peu fermé parce qu'il y a un prix d'entrée. Et il dit, les marchés sont devenus tellement gros et tellement efficaces qu'ils sont devenus plus forts que les démocraties. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les démocraties pourraient améliorer leur fonctionnement pour devenir aussi fortes que les marchés et plus fortes et les dominer de nouveau? Et là encore, la blockchain apparaît comme une possibilité. C'est-à-dire, dans sa mesure où il produit du consensus décentralisé, il produit de l'efficience, de l'inclusion, tout en maintenant une confiance maximale dans les opérateurs. Vous pouvez être des millions à échanger des bitcoins, comme dans une démocratie, des millions à voter. Il n'y a aucune perte de confiance grâce au protocole qui vous assure que tout ce qui est fabriqué est enregistré. Ça, c'est extrêmement fort. Alors, c'est extrêmement fort d'abord parce que ça permet donc de rendre les réseaux sociaux, hein, au sens propre du terme, hein, les organisations sociales aussi efficientes que les marchés. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que ça permet d'imaginer que des États s'organisent comme des blockchains et que, de la même manière que les mineurs des blockchains, c'est-à-dire les gens qui valident la véracité des transactions sont payés en Bitcoin, on pourrait imaginer que toutes les personnes qui participent à la vie sociale, à la vie collective, soient rémunérées aussi à leur manière, comme des mineurs de blockchain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez toutes les fonctions qu'Amartya Sen appelle capacitantes, et vous dites, elles pourraient donner lieu à des tokens ou des jetons qui permettraient, qui auraient une valeur légale pour payer ses taxes. Et c'est en ce sens-là qu'on deviendrait tous fonctionnaires. Toutes ces choses-là aujourd'hui, toutes ces activités, il y a beaucoup d'activités sociales qui sont des activités gratuites, associatives, qui ne sont pas rémunérées. Or, elles font tenir le social ensemble. Elles ont une valeur absolument immense. Comment monétiser ces choses-là? La blockchain est peut-être une solution. Alors, je sais que quand je parle de ça, souvent on me dit, mais est-ce que tout est monétisable? Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à quelque chose de monstrueux, un hypercapitalisme, ou même les comportements seraient monétisés, etc. J'ai envie de dire, tout n'est pas monnayable, mais peut-être que tout est monétisable. Si vous vous séparez de votre conjoint ou de votre conjointe et que le juge vous ordonne de payer une pension alimentaire, il a bien monétisé quelque chose. Est-ce qu'on dirait pour autant qu'il a monnayé l'amour ou les relations humaines? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est entré dans un hypercapitalisme du divorce parce qu'on paye des pensions alimentaires. Je crois que c'est même le contraire. Pourquoi ne pas imaginer que la société dans son ensemble monétise un certain nombre d'activités considérées aujourd'hui par le capitalisme comme improductives, gratuites, alors qu'elles sont fondamentales à la structuration sociale? On se retrouve de nouveau dans cette problématique, toutes ces problématiques que j'essaye de brasser dans le livre.
Oui, c'est là où c'est assez vertigineux, justement, votre pensée. C'est que on s'aperçoit que juste pour cette histoire de Bitcoin qu'on pouvait prendre un peu comme une monnaie de révolutionnaire, une monnaie en tout cas de marginaux, il y a des concepts derrière, il y a une pensée vraiment structurée, forte. Il se passe véritablement quelque chose qui est de l'ordre de l'inédit et qui est aussi de l'ordre de la rupture. Je vais vous lire à nouveau Marc Alizart, et ça pourrait pourquoi pas être la conclusion, mais je vous laisserai parler dessus. Vous expliquez ce qu'est au fond, en dernier ressort, peut-être globalement en sa globalité, Bitcoin, qui pourrait pourquoi pas ressembler à un Léviathan, mais différent. Je vous cite, « Rien n'empêche même de le considérer comme une personne, une forme d'intelligence artificielle collective, ce corps politique commun que Marx appelait de ses voeux, ou le cerveau global dont parlait Teilhard de Chardin. »
Oui, je me suis autorisé dans les dernières pages du livre à prendre qu'un peu de champ avec les théories en vigueur pour explorer une ultime hypothèse. Mais qui se trouve aussi dans Marx, hein, qui est que le communisme in fine est aussi une transformation de la nature. Et Bitcoin est une transformation de la nature. En gros, quel était le point de départ de ça? Bitcoin est une membrane. C'est une membrane protectrice qui... le protocole, hein, j'entends, est une membrane protectrice qui permet à des cellules, en quelque sorte, de s'échanger, comme des globules. Et moi, ces histoires de membranes m'intéressent beaucoup. Les biologistes sont convaincus que les membranes sont au commencement de la vie. Hein, on ne sait pas d'ailleurs si c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire si c'est l'ADN qui vient avant la membrane ou la membrane avant l'ADN. Mais enfin, il y a quelque chose qui se joue entre ces deux opérateurs. Et il y a quelque chose de très troublant dans Bitcoin qui est qu'effectivement, il semble être cette forme élémentaire de la vie. C'est pas évidemment un organisme vivant, il n'a pas de cerveau, etc. Mais il est un peu comme le blob là, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a sans système nerveux central, et pour cause, il est décentralisé. Il a malgré tout un comportement collectif. Et il y a d'autres choses qui sont très troublantes hein, dans l'histoire de Bitcoin récente. Elle est encore que récente, ça fait que 10 ans que ça existe. C'est ce qu'on appelle les fourches. Les fourches, c'est un petit peu comme les moments où les espèces divergent pour s'adapter à l'environnement. Alors un temps, la chaîne la plus forte emporte tout, et puis l'environnement change, et puis tout d'un coup, peut-être une autre chaîne de Bitcoin va se développer davantage. Une sorte d'évolution des espèces à l'intérieur de Bitcoin qui me donne à penser qu'effectivement, on a le squelette de quelque chose de vivant. Alors, un organisme vivant composite, c'est pour ça que je parle de Teilhard de Chardin, ce qu'il avait imaginé, cette noosphère où, à la fin des temps, la totalité des individus sur Terre communiquant, formaient un réseau, mais pas un réseau au sens d'Internet. Le réseau Internet, c'est, ou la toile, comme on dit, on dit bien d'ailleurs la toile, c'est pas vivant, hein, c'est une structure géométrique. Bitcoin, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne comme un arbre, comme un rhizome. Chaque transaction de Bitcoin est comme de la lignite qui vient durcir le tronc central de l'histoire de Bitcoin. Et c'est comme un arbre qui pousse avec donc toutes ces différentes variantes de Bitcoin qui fourchent, sont comme des branches. C'est comme le buisson du vivant, mais en vrai. en vrai, j'allais dire, les gens diraient c'est le contraire, non, sur un ordinateur. Mais oui, bon, je me comprends, c'est-à-dire que oui, la métaphore de Léviathan vient en tête tout de suite. C'est-à-dire que, encore une fois, le paradoxe voudrait que Bitcoin soit un outil libertarien d'émancipation, alors que c'est peut-être le plus gros Léviathan, la revanche de Léviathan, c'est-à-dire l'animal politique rendu effectivement vivant. Le corps social étant doté d'un réel corps, hein, pas d'un corps imaginaire, mais d'un corps unifié qui en fait une sorte de titan d'un nouveau monde. Et alors effectivement, pourquoi ne pas imaginer là-dessus une forme d'intelligence collective, comme on dit souvent, et la conscience de soi, après tout, est une forme aussi de membrane. Une membrane, c'est quelque chose qui distingue le soi et le non-soi. Donc la conscience de soi n'est pas une fonction de l'intelligence. La conscience de soi est une structure du vivant. Et si Bitcoin est une membrane, alors Bitcoin est aussi, d'une certaine manière, une proto-conscience. Alors c'est toutes ces idées-là un peu que j'explore à la fin, à prendre ou à laisser, hein, mais j'aime bien cette philosophie fiction que autorise des objets aussi nouveaux que Bitcoin. Vous l'avez dit, je vais peut-être moi conclure là-dessus, on a tendance parfois à trivialiser un peu les inventions techniques, notamment les inventions informatiques. Comment dire, à pas comprendre qu'elles s'inscrivent dans une histoire longue. Quand je dis trivialiser, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon mot, parce que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est une espèce de nouveau épouvantail millénariste, transhumaniste, etc. Mais ça reste très extérieur à nous, quoi. On se dit que c'est des machins qui nous tombent sur la tête. Mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est la conséquence et la suite d'une histoire extrêmement longue, d'une histoire de l'homme, hein, d'une histoire de la nature même, voire même du cosmos. C'est-à-dire que quand on parle thermodynamique, on parle énergie, information, au niveau élémentaire, au niveau de la matière, on parle d'un univers qui se déploie, qui s'invente, qui devient vivant, une vie qui devient consciente et une conscience qui se réfléchit sur ses conditions d'apparition et veut se propager, se prolonger, se perpétuer. Et rien n'empêche de penser que l'informatique, et Bitcoin en particulier, est la forme que prend aujourd'hui cette ultime étape de l'univers qui vise à se perpétuer, à se prolonger, à se connaître. Moi, j'aime beaucoup imaginer voilà, qu'on est raccordé à tous les temps, et qu'on n'est pas les satellites d'une histoire sans queue ni tête, qui essayons de faire du sens avec des bouts de machin qu'on bricole. C'est vrai aussi qu'on est ça, mais on est plus que ça, et la philosophie doit réussir à nous permettre de le penser.
Merci beaucoup, Marc-Alisa.